Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et chaque jour, des patronnes, des patrons se bougent pour traverser la crise, des associations mais aussi des start-up qui bâtissent déjà le monde de demain. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Alors, la Française des Jeux, une entreprise insensible aux crises, est-ce que ça se vérifie encore en ce moment? À quoi joue-t-on? Tiens, est-ce que le loto a-t-il toujours la cote? Sa patronne, Stéphane Palaise, est notre invitée jusqu'à 14h.
À la une, en effet, Emmanuel, les jeux d'argent, la crise sanitaire n'a pas épargné les paris sportifs et pourtant, certains sites spécialisés ont raflé la mise comme Winamax. On en parle avec l'un des responsables de la start-up dans quelques minutes.
Leurs casinos font partie des plus beaux casinos français, peut-être même du monde. Stars et inconnus s'y pressent dans l'espoir de faire sauter la banque. Le groupe Barrière, un groupe familial plus que centenaire avec ses casinos, ce sera notre saga du jour.
Et bien sûr, les trophées européens. Nous avons retenu aujourd'hui la start-up Jopy qui propose de la nourriture pour chats. Va-t-elle vous convaincre? Va-t-elle convaincre notre patronne du jour? On en parle vers 13h45.
En fin d'émission demain au travail, 2 mois de congé maternité et paternité en plus. C'est ce que propose Panda Crafts. Nous appellerons son fondateur en fin d'émission.
Et bienvenue dans La France Bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Alors vous commencez à en avoir l'habitude, hein, La France Bouge. Et l'émission positive avec toutes ces initiatives qui justement font bouger la France. Aujourd'hui, est-ce que nous continuons de jouer aux jeux de hasard et d'argent?
Et on en parle avec vous Stéphane Palaise, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la PDG de la Française des Jeux, de la FDJ. Les jeux d'argent, c'est un des rares secteurs insensibles, hein, normalement, à la conjoncture. Je vous vois tiquer, vous allez tout nous expliquer. Mais avant de rentrer dans le détail, pouvez-vous nous dire aujourd'hui si la Française des Jeux s'est sortie de l'épisode de la crise sanitaire du confinement avec brio?
Alors, bah, puisque vous l'avez dit, oui, on va dire qu'on s'en est sorti avec brio, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas été affecté. Donc, quand le confinement a commencé, que 20% de nos points de vente ont été fermés, que les compétitions sportives ont disparu, or c'est 20% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, et que nous-mêmes, d'ailleurs, on a pris l'initiative d'arrêter certains de nos jeux parce qu'ils ne nous paraissaient pas compatibles avec les normes sanitaires comme Amigo. Donc, pendant les 2 mois de confinement, on a quand même perdu 60% de nos mises. Voilà. Ah. Donc ça, c'est la réalité. Après, là où je pense qu'on s'en est bien sorti et on va continuer de bien s'en sortir, c'est que d'abord, on a réagi pendant cette crise. Donc, on a fait des économies. Pas juste pour l'économie, mais pour être prêt à se relancer
et à rebondir
le jour où l'activité repart. C'est ce qu'on a plutôt pas mal fait, en particulier depuis le mois de juin.
Donc ça y est, vos points de vente ont rouvert. Vous avez l'un des plus beaux réseaux de France avec les buralistes. 30 000 points de vente partout en France pour
buralistes
la Française des
et
Jeux.
Vendeurs de presse.
Et vendeurs de presse. Là, important. De façon très concrète, ça y est, c'est reparti, comme en 40.
On a retrouvé nos habitudes.
Comme en 40, je ne sais. Comme en 40, c'est peut-être pas la meilleure
selon
comparaison.
Selon l'expression, en tout cas.
Donc, et oui, je crois qu'on est une entreprise qui est vraiment enserrée dans les habitudes de vie et de convivialité des Français. D'ailleurs, quand on demande à nos joueurs « est-ce que vous êtes content de revenir dans les points de vente ?», ils nous disent « on était content de pouvoir jouer en ligne ». Donc, puisqu'ils pouvaient jouer en ligne sur, à la loterie sur notre site. Mais pour une majorité d'entre eux, en fait, ils sont très contents de revenir dans les points de vente. Parce
très
que
contents de revenir. Est-ce que ça,
ça
veut dire
correspond
que
à leurs habitudes de vie.
En termes de vente, est-ce que vous êtes revenu à la normale, comme si il n'y avait pas eu de Covid?
Non, on n'est pas encore revenu à la normale. Donc on a dit, on n'a pas donné de prévision encore pour la fin de l'année. On le fera mi-octobre, puisque comme beaucoup d'entreprises, on a suspendu ce qu'on appelle nos guidance, c'est-à-dire nos objectifs de fin d'année en termes boursiers. Ce qu'on a dit en revanche, c'est qu'effectivement, au mois de juin, on a commencé à revenir à des niveaux d'activité comparables à ceux du mois de juin de l'année dernière. Le mois de juin n'est pas forcément le mois le plus important.
Mais là, septembre, mois de rentrée, pareil. On est à peu près comme septembre l'année dernière.
On a eu un très bon mois d'août et on y reviendra avec Winamax sur les paris sportifs puisqu'on a eu effectivement des événements exceptionnels avec des équipes françaises exceptionnelles en matière de foot au mois d'août. Et au mois de septembre, on est plutôt sur une bonne lancée. Donc, on n'est pas encore revenu à la normale, mais on est en train de revenir à des niveaux niveau d'activité qui permettent de penser que nous allons revenir à la normale.
Alors, on espère aussi que vous allez revenir à la normale, mais bon, tout est, les voyants sont au vert. Qu'est-ce qui marche au niveau du jeu ? On joue plus à quoi en ce moment ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire déjà, ce que la crise a montré, c'est que nos best-sellers, d'une certaine manière, nos jeux résilients, comme on dit dans le monde d'aujourd'hui, ça reste quand même nos grands jeux de tirage. Donc ce sont des jeux qui, probablement quand on dit insensibles à la crise, ce sont les jeux probablement les plus insensibles à la crise. Le loto, l'euro million. Alors, le loto, l'euro million, ça reste des jeux CE, ce sont les jeux qui ont le maximum de joueurs, et ce sont les jeux sur lesquels les gens ont été sur notre site en ligne le plus naturellement, parce que ça fait partie de leurs habitudes, de leurs espoirs. Voilà. Donc ces jeux-là, ce sont des jeux il se trouve qu'on les avait l'un et l'autre relancés il n'y a pas très très longtemps, donc on avait une nouvelle formule du loto. Sur l'euro million, on a fait un accord avec l'ensemble des lotos européennes, et progressivement le jackpot va pouvoir monter s'il monte jusqu'à 250 millions. Donc les deux avaient des formules attractives, et les deux, on voit qu'ils sont très résilients dans la crise. Les gens ne jouent pas plus, mais ils continuent de jouer à ces jeux-là. Les jeux de grattage, c'est un petit peu différent, puisque les jeux de grattage, ça reste quand même si on a un nombre de jeux en ligne qui sont des transpositions, ça reste d'abord des jeux de points de vente. Donc quand les points de vente sont en partie fermée, ou quand il y a moins de trafic, on a une plus forte baisse sur les jeux de grattage. Et les paris sportifs, ça marche très bien en ce moment.
Stéphane Pallez, vous êtes la PDG de la Française de Jeux. Vous le disiez à l'instant, on ne joue pas plus quand on est en temps de crise. Malgré tout, est-ce que quand ça va mal, on ne se dit pas, allez, je vais peut-être dépenser l'euro ou les 2 euros, parce que peut-être que j'ai quelques milliers d'euros en plus qui m'aideront bien dans un moment de vie compliqué?
Alors, c'est une question qu'on se pose en permanence, qu'on nous pose en permanence, sur lequel on a fait plein d'études dans des crises précédentes. Alors, cette crise-là, elle est unique. Inédite, évidemment. Donc, à ce stade, je peux vous dire que les gens ne jouent pas plus. En revanche, ils essayent de maintenir leurs habitudes, encore une fois, sur des jeux comme le tirage ou sur la loterie en ligne. Donc on a eu plus de 50% de notre chiffre d'affaires, plus de 50% de croissance des mises sur la loterie en ligne.
Donc ça s'est reporté sur la loterie.
Ça s'est reporté un peu, mais l'essentiel de notre chiffre d'affaires, il reste dans les points de vente, et il est lié, encore une fois, à un certain nombre d'habitudes, et d'habitude avec ses copains, son détaillant, etc.
Stéphane Pallez, vous êtes la PDG de la Française des Jeux, et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, et aujourd'hui jusqu'à 14h, on va parler de jeux d'argent, de paris sportifs, de loterie, de jeux en ligne, de poker et de tout ça. C'est bien évidemment au menu de cette France bouge sur Europe 1, avec notamment notre grand témoin du jour, Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux.
Et avec vous aussi, bonjour Julien Hubert.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Alors vous êtes en charge des paris sportifs et du poker chez Winamax.
C'est ça.
Winamax, c'est ce que l'on appelle un pure player, hein, c'est-à-dire que c'est du 100% en ligne. À l'origine, vous êtes centré sur le poker. En 2014, vous vous êtes lancé sur les paris sportifs. Donc, ma première question, il y a eu ces 2 mois de confinement. Comment ça s'est passé ? Les Français ont-ils joué et joué au poker ?
Alors, oui, plutôt. J'aurais une approche un peu plus nuancée par rapport à Mme Pallez qui nous disait que les Français ne jouaient pas plus. Nous, on a la chance d'avoir 2 activités, le poker et les paris sportifs. Et il se trouve que pendant le confinement, le poker, chez nous, était une activité qui se prêtait plutôt bien au confinement, au fait que les gens soient confinés. Ils avaient du temps, ils étaient privés de pas mal de leurs loisirs, ce qui leur libérait un petit peu de budget. Et donc, le poker qui demande évidemment un petit budget et du temps se prêtait tout à fait à cette situation.
C'est ça, pour qu'on ait un exemple, au niveau du temps, par exemple, que les gens ont passé à jouer au poker par rapport à d'habitude, ça a augmenté le temps de combien de temps ? C'est le moment d'utiliser tant de fois de temps dans la question, mais vous l'avez compris en tout cas.
Alors, c'est pas très évident de répondre à cela, mais disons qu'en fait, nous, on a plusieurs formats de jeu chez Winamax. On a des formats ultra rapides. C'est un format qu'on a inventé en 2013 qui s'appelle l'Expresso. Et à côté de ça, on a également des tournois qui durent un peu plus longtemps. Pour le format ultra rapide, ça n'a pas changé grand-chose. Ça durait 3 à 5 minutes avant, ça dure toujours 3 à 5 minutes. Ce qui était plus facile pour les joueurs qui étaient confinés chez eux, c'était de jouer des longs tournois, hein, ce qu'on appelle les tournois multitables, qui durent entre 2, 3, 4 heures. Voilà, c'est des tournois.
Et là, vous avez vu qu'il y en a eu beaucoup plus.
Voilà, exactement. On s'inscrit une seule fois, on a notre budget qui est engagé au départ de la partie, et ensuite on joue jusqu'à être éliminé. Voilà, et ça, évidemment, ça a bien marché.
Donc, vous dites que ça a bien marché. Vous avez compensé les pertes liées à d'autres paris, liées aux paris sportifs, par exemple ?
Alors, effectivement, les paris sportifs se sont effondrés avec l'absence de compétition sportive. Pour être tout à fait honnête, le poker a vraiment plutôt très bien marché chez nous. Et donc, il se trouve qu'on a fait un peu plus que compenser.
C'est-à-dire ?
Une fois qu'on a dit
donnez des chiffres. Bah,
vous n'êtes pas coté en bourse, vous avez le droit. Vous.
C'est... Allez-y.
C'est difficile de dire si la croissance que l'on a connue sur le premier semestre aurait été la même, sans confinement, mais on peut dire au moins qu'elle aurait été du même niveau. Voilà, certainement peut-être un peu en dessous sans confinement.
Donc, grâce au confinement, vous faites un peu mieux que ce que vous auriez fait normalement, alors qu'il n'y avait pas les paris sportifs. Les compétitions sportives, justement, ont repris. Là, on le voit par exemple avec la Ligue 1, c'est bien reparti. Le Tour de France, on va en parler tout à l'heure, puisque la Française des Jeux a une équipe. Le Tour de France vient de s'arrêter. Est-ce que ça y est, les gens, là aussi, ont repris leurs habitudes ?
Alors, plutôt, j'ai l'impression, le Tour de France, c'est quand même un sport assez confidentiel chez nous, qui est très peu misé. C'est d'abord le football qui représente 50% des mises, puis le tennis. Le cyclisme, c'est un sport de niche, mais par rapport à l'année dernière, on a constaté des mises en croissance d'une centaine de pourcents. Donc c'est plutôt encourageant et c'est signe d'une reprise.
Et sur le foot, c'est bien reparti. Et là, Roland-Garros qui arrive, j'imagine que c'est également des moments qui vont être importants pour vous ?
On a beaucoup d'attentes sur Roland-Garros, les qualifications ont débuté. Quant au football, effectivement, on a eu un été particulier, car comme vous le savez, tous les championnats ont repris, sauf le nôtre, sauf la Ligue 1. Donc on a eu pas mal de mises, et puis la formule de la Ligue des Champions en mode Final 8, en mode Playoff, a également fait du mois d'août un mois assez atypique en termes de mises, et de la même manière, on a connu une très très grosse croissance des mises.
Donc une belle croissance, est-ce que vous pensez que vous allez poursuivre sur cette lancée, hein, parce que là, vous nous l'avez dit, vous excellez beaucoup dans le poker. Vous avez littéralement remplacé les salles de jeu.
Dites oui, notre prochain invité, après, ça va être le patron des casinos barrières. Il va être très content.
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Et d'ailleurs, chez Winamax, on a toujours attaché beaucoup d'importance à ce qu'on appelle le poker live. En dur, on a toujours essayé d'organiser beaucoup d'événements autour de ça, parce qu'on est persuadé que les gens ont quand même besoin de se voir, ont quand même besoin de se réunir autour d'une table.
Oui, mais là, tel que c'est parti, vu que la crise est encore avec nous, hein, le coronavirus n'est toujours pas parti, hein, est-ce que vous allez poursuivre cette lancée ? Est-ce que vous misez là-dessus ?
Il faut bien reconnaître qu'il y a un peu d'inertie sur cette activité. Ce qu'on met à disposition, nous, de nos joueurs, c'est beaucoup de tables privées, de façon à ce qu'ils puissent continuer à jouer entre eux, entre amis, en plus de notre offre régulière. Donc, évidemment, on profite un peu de cette inertie et du fait que le poker, pour l'instant, en live, n'a toujours pas repris.
Stéphane Pallet, je rappelle que vous êtes la patronne de la Française des Jeux. Winamax, c'est quoi ? C'est un gros concurrent qui commence à vous faire mal sur le numérique ? Ou vous vous dites, bon, allez, maintenant que c'est reparti, ils vont tous revenir chez moi ?
Alors nous, on est en fait, on est le plus gros opérateur de paris sportifs en France, mais pour être parfaitement transparente, c'est parce que effectivement l'essentiel de notre activité est dans les points de vente, et on l'a très très bien développé. Et ça, je pense que ça c'est quand même c'est à souligner, parce que quand le marché des paris sportifs en ligne a été ouvert en 2010, on pensait que le paris sportif en ligne allait effacer assez rapidement l'activité.
Déception là-dessus pour le moment. Quoi.
Bah, c'est-à-dire que non, mais le marché des paris sportifs en ligne, il a cru très rapidement. Et d'ailleurs, on y est aussi. Donc, on n'est pas au même niveau que Winamax. Mais on a bien suivi cette croissance. Et aujourd'hui, on gagne des parts de marché sur la partie en ligne. Mais on a aussi réussi à créer, effectivement, une activité de paris sportifs en point de vente, moderne, qui d'ailleurs est essentiellement jouée sur mobile en point de vente. C'est-à-dire que nous, on a eu une stratégie consistant à dire, dans le point de vente, il faut avoir la même expérience et la même simplicité, en particulier sur les paris sportifs, qui sinon sont quand même assez compliqués quand on doit aller cocher des cases sur un bulletin. Et donc, on a quand même une croissance qui a été entre 15 et 20% du chiffre d'affaires, notamment en 2019, par exemple, sur la partie des paris sportifs en ligne. Donc, voilà. Donc, le en ligne pour nous, c'est les paris sportifs en ligne. Après, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on investit pour développer, et là c'est pareil, pour développer à côté de nos jeux en physique, nos jeux de loterie en ligne.
Oui, parce que ça marche. Le numérique reste une petite part encore chez vous, même si c'est en très forte croissance. Alors, vous pensez un jour pouvoir atteindre des niveaux comme Winamax, ce genre de choses ? Un jour, la FDJ sera aussi bien sur le numérique que...
Mais la FDJ, elle doit offrir le meilleur des deux mondes et le meilleur des deux expériences. Et ce qui est, nous, notre objectif, c'est de continuer à développer notre activité en physique en la rendant de plus en plus digitale, de plus en plus moderne, en renouvelant nos jeux, et à côté de développer effectivement notre activité en ligne. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle nos mises numérisées, c'est-à-dire tout ce qui passe par du numérique en point de vente ou en physique, c'est plus de 20% de nos mises.
Merci en tout cas Julien Hubert, en charge des paris sportifs et du poker chez Winamax.
Merci à vous.
Merci.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et avec Emmanuel Duteil, nous sommes ravis d'être avec vous, Stéphane Palaise. Vous êtes la présidente, la PDG de la Française des Jeux. Depuis 13h, nous parlons des jeux d'argent, du loto, mais aussi des paris sportifs dans la France bouge. Votre actualité, c'est aussi le loto du patrimoine. On sort tout juste des journées du patrimoine. Comment ça a fonctionné ?
Alors, ça s'est très bien passé. D'abord, je peux dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre pour la première fois, qui est qu'on a récolté pratiquement 17 millions d'euros depuis le début du mois de septembre sur l'ensemble des jeux patrimoine, sachant que l'année dernière, on a récolté au total 25 millions. Donc on est bien, on est dans la bonne trajectoire pour atteindre au minimum la même chose que l'année dernière. C'est ce qu'on s'est fixé comme objectif.
Donc, très bonne nouvelle.
Ce qui n'était quand même pas évident. Dans ces temps de crise. Et on a pu, par ailleurs, aller montrer que l'argent qu'on a collecté dans les deux précédentes éditions, il est déjà investi pour restaurer les deux monuments. Donc le chiffre, hein, c'est on a sélectionné 390 monuments. Il y en a 44 qui ont fini leurs travaux de restauration financés par l'auto patrimoine. Il y en a 144 autres où le chantier est en cours. Donc en gros, la moitié des monuments sur lesquels on a collecté de l'argent depuis 3 ans maintenant sont en train d'être restaurés. Donc c'est vraiment très concret et c'est vraiment très important, je pense, pour nos territoires.
Vous étiez aux côtés du président de la République vendredi.
Tout à fait. Hein, il s'est Condom.
Voilà, pour voir comment ça se passe concrètement sur place. Ce sont des nouveaux joueurs pour vous ou ce sont des joueurs habituels de la Française des Jeux ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est un jeu qui rencontre une adhésion à la fois de nos joueurs réguliers et aussi d'autres joueurs qui viennent, il faut le dire, uniquement pour jouer à ce jeu-là. Et quand on demande aux Français s'ils aiment ce jeu, on a une espèce de plébiscite pour ces jeux qui reflète le fait que le patrimoine, c'est vraiment une cause qui unit l'ensemble des Français, l'ensemble des catégories professionnelles sur l'ensemble du territoire. Et on voit bien quand on est, là on était à Condom avec le président, comment les gens sont fiers de leur patrimoine et attachés à ce qu'il soit en bon état utilisé. Et là, en plus, c'est une école publique. Donc, honnêtement, il n'y a pas de monument dont on puisse être plus fier.
Alors, ça, c'est pour le patrimoine. On peut aussi payer désormais ses impôts chez son buraliste et la cantine aussi des enfants. Il y a plus de 5000 buralistes pour le moment. Vous, quels sont les premiers retours que vous avez ?
Alors, nous, d'abord, on est très fiers parce qu'on a fait pour la première fois un partenariat avec les buralistes pour remporter un appel d'offres auprès de la DGFiP,
donc Direction générale des finances publiques.
Voilà, puisque effectivement, à l'origine, c'était déjà pour pouvoir payer ses impôts dans des points de vente. On a déployé ce service en un temps record et on a fini de le déployer pendant la période du Covid. Donc, en gros, au 1er juillet, on avait déployé nos 5000 points de vente, notre engagement initial. Maintenant, c'est un service qui fonctionne et évidemment dont il faut parler.
Ça fonctionne, donc, mais donc quels sont les premiers retours ? Ça y est, on commence un peu à payer, à se renseigner.
On commence un petit peu à payer. Il faut clairement, c'est un service qui a besoin d'être encore davantage connu. Donc ça s'appelle paiement de proximité. Il y a un sigle qui l'indique. Donc il y a effectivement déjà des gens qui l'utilisent et il faut qu'ils l'utilisent pas seulement pour payer leurs impôts, parce qu'heureusement, on n'a pas des impôts à payer tous les mois, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en revanche, je peux avoir des factures de cantine ou d'activités périscolaires. Et donc, il faut qu'on ait de plus en plus de communes et de collectivités qui offrent la possibilité, en mettant le QR code qu'il faut sur la facture, d'utiliser ce service. Et je pense que ça fait partie aussi, encore une fois, de la proximité des services publics sur le territoire national. Donc, c'est bien.
Alors, vous avez eu un week-end chargé. On a vu vendredi avec le président de la République. Hier, vous étiez à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Pourquoi donc ? Parce qu'il y a encore une équipe cycliste qui s'appelle Groupama FDJ, donc Française des Jeux. Elle termine 11e, deuxième équipe française. Vous êtes pourtant l'équipe de Thibaut Pinot. Vous êtes déçu quand même ?
Bah, écoutez, nous, on est évidemment qu'on préfère gagner. Donc voilà, on préfère gagner, mais on est persévérant, on est combatif et on est populaire. Hein. Mmh. Donc je pense que vous avez probablement vu les images de Thibaut Pinot, notamment à la planche des Belles Filles. Et je crois que c'était pas seulement les gens localement qui pensent que c'est un grand champion. C'est ce qu'on pense aussi. Bon, il est tombé
à Nice. C'est indispensable pour vous encore d'avoir une équipe cycliste aujourd'hui.
Pour nous, c'est une très belle incarnation d'un engagement de long terme. On est une entreprise qui aime bien le long terme. Donc, on s'est engagé en 1997 avec cette équipe cycliste. Maintenant, en plus, on a un très beau co-sponsor qui est Groupama. Donc, on est plus fort. On a une capacité de continuer à déployer dans le temps. Et pour nous, c'est une bonne incarnation de notre conviction que le sport, ça fait partie effectivement de nos engagements. Mmh. Et là, en termes de médiatisation...
Important, sponsoring sportif.
En termes
de
médiatisation, le Tour de France, comme vous savez, est un des plus grands événements sportifs mondiaux. Et donc, même quand on ne gagne pas, mais on préfère gagner, on est quand même très visible.
Et je pense
que vous continuerez comme ça.
Voilà.
Stéphane Pallez, vous connaissez les casinos du groupe Barrière ?
Bien sûr.
Parce que là-bas aussi, on fait en sorte d'accueillir du public, de reprendre petit à petit la vie. Et on va en parler avec vous, Éric Cavillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général des casinos Barrières. Les casinos Barrières, ce sont les casinos que l'on voit dans plein de grandes villes en France, hein, à Toulouse, à Bordeaux, surtout à Enghien-les-Bains, hein, 27 casinos en France, 6 à l'étranger. On va revenir un petit peu en arrière parce que c'est le moment de la saga. Les tout premiers jeux ont commencé en 1854 dans un chalet en bois à Enghien-les-Bains. Éric Cavillon, on était bien loin des casinos d'aujourd'hui.
Oui, absolument. Maintenant, les jeux d'argent, et on est tous sur le même secteur aujourd'hui, les jeux d'argent, ils ont toujours existé. On a toujours joué avec de l'argent, on a toujours parié.
Auparavant, c'était plutôt des toupies, non ?
Oui, il y a eu plusieurs choses. Après, je n'étais pas là. Hein.
Non plus, on vous rassure.
Mais globalement, le jeu d'argent, sous toutes ses formes, a effectivement toujours existé. Nous, on est arrivé un petit peu plus tard. On est arrivé en 1912 à Deauville, qui est un petit peu la maison mère, et j'ai eu la chance de diriger ce casino pendant 7 ans il y a quelques années, et c'est vraiment un endroit mythique. Il y a toutes les histoires que nous avons tous racontées autour de personnages célèbres comme Françoise Sagan ou le peintre Vendongen qui jouait carrément ses toiles sur les tapis verts. Il y a des gens qui ont dû faire des très très bonnes affaires à ce moment-là.
Mais les casinos, notamment celui de Deauville que vous citez, que vous avez dirigé donc en 1912, c'était un autre monde, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'habillait pour venir au casino, c'était une certaine
sortie.
Intelligentsia aussi qui venait au casino.
Oui, les casinos ressemblent à la société. Un jour, j'étais directeur du casino de Nice et j'ai fait une étude de marché sur la population de Nice. Je suis allé voir le maire, je lui ai dit voilà, il y a ça, etc. Il m'a dit oui, en fait, vous venez de me dire quelle était ma population. Donc en fait, ça ne va pas plus loin. Les gens qui viennent au casino aujourd'hui, c'est les gens qui sont dans un rayon d'à peu près 100 km. Donc à l'époque, on se déplaçait beaucoup moins facilement, et c'est la raison pour laquelle les casinos ont été mis dans des stations balnéaires, thermales ou climatiques. C'était uniquement pour éviter que les gens qui n'avaient pas les moyens puissent y aller, tout simplement.
Et dépenser le peu qu'ils
avaient.
Alors, comment les casinos ont-ils évolué au fil du temps ?
Alors, la grosse date...
Depuis 1912.
La grande date pour nous, c'est 1988, avec l'arrivée des machines à sous en France, et en l'occurrence pour nous à Deauville et à Cannes. Ça a totalement changé les casinos. Personnellement, ça m'a également fait rentrer dans ce monde-là, puisque à l'époque, il y avait surtout des jeux de table, et avec un décorum, avec, je dirais, des méthodes qui étaient peut-être un petit peu surannées. Et aujourd'hui, avec les machines à sous, on est une entreprise comme une autre, avec les mêmes objectifs et les mêmes raisons de faire venir nos clients.
Donc ça s'est énormément démocratisé,
absolument,
si on vous entend bien, aujourd'hui, grâce
c'est
à l'arrivée des machines à sous.
Ça a totalement démocratisé le jeu. Contrairement à nos hôtels où il y a 4 étoiles, 5 étoiles, dans un casino, tout le monde peut venir. Il suffit d'avoir une carte d'identité, de ne pas être interdit de jeu.
Vous
pouvez venir jouer et être dans des endroits un petit peu mythiques, hein, comme Deauville.
On dépense combien en moyenne dans vos casinos ? C'est quoi la mise ?
On perd 77 euros en moyenne par client.
C'est beaucoup. Ouais.
On est dans une... Ça dépend ce que vous faites. C'est une soirée si vous voulez aller au restaurant et ensuite aller boire un verre, c'est l'argent que vous allez dépenser. Si vous venez jouer, vous pouvez également gagner. 77 euros, c'est la moyenne de dépenses de nos clients.
Depuis le déconfinement, là, ça a repris. Comment vous organisez ?
Ça a repris difficilement. Moi, je peux vous dire ce qu'on a fait pendant le confinement. On a fait zéro, hein, puisqu'on était fermé, hein, contrairement à mes collègues de la Française des Jeux et de Winamax. Donc, ça a été quand même un moment exceptionnel. C'est la première fois qu'on fermait nos casinos. Ça ferme jamais, un casino. Et la reprise est difficile parce qu'on a évidemment souhaité, et c'est bien naturel, avoir des mesures sanitaires extrêmement strictes. Et donc, ben voilà, ça reprend doucement.
Ça reprend doucement, mais il en reste la magie.
Il reste la magie, absolument. Quand vous entrez dans un casino comme Deauville, comme Cannes, mais également dans les nouveaux casinos comme Toulouse, que vous avez cité, Bordeaux, et évidemment Enghien-les-Bains, il y a une excitation, il y a un plaisir qui est exceptionnel.
Et quand on est un groupe familial, on le voyait, c'est né au début du siècle dernier, on a passé la première guerre, la deuxième guerre, et on se dit quoi, que le Covid c'est la troisième et qu'on en ressortira là aussi plus fort ?
Bien sûr, bien sûr. De toutes ces crises, il faut absolument en tirer des enseignements. C'est très clair.
En tout cas, merci Éric Cavillon. Vous êtes le directeur général des Casinos Barrières.
Merci beaucoup.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, jusqu'à 14h, on est avec notre grand témoin Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux. Et c'est parti pour les trophées européens. Ils osent, ils se lancent, on les écoute hein, chaque jour, pitchés devant l'œil attentif et exigeant de notre patronne du jour.
Et avec vous, bonjour François Rousse.
Bonjour.
Je vais vous demander de vous rapprocher de votre micro pour qu'on vous entende bien, pour que la France entière vous entende. Vous êtes le fondateur de Jopy, J-O-P-Y. Absolument. Vous êtes le propriétaire d'un chat, il s'appelle Georges. Et un jour, vous avez eu envie de bien le nourrir. Quel a été le déclic ? Quel est votre produit ? Parce qu'il s'agit de nourriture pour chat. Vous allez tout nous raconter. Vous avez une minute.
Non, je dirais même que je suis le colocataire de Georges. Donc Jopy, c'est le surnom de Georges, le chat roux que j'ai recueilli. Donc j'ai été désireux de lui offrir une meilleure alimentation en accord avec mes valeurs. Et du coup, c'est comme ça qu'est née Jopy, l'alimentation qui est pratique, saine et gourmande pour nos chats. Et donc concrètement, qu'est-ce que c'est Jopy ? Jopy, ce sont des croquettes qui sont faites dans l'ouest de la France avec de la viande fraîche. Elles se commandent en ligne avec un abonnement sans engagement, donc aucun engagement sur cet abonnement. Et donc Jopy est plus responsable avec un packaging zéro plastique et la livraison du premier kilomètre à vélo pour tous nos clients. Et donc Jopy, c'est aussi, il s'engage aussi dans une démarche solidaire en reversant 1% de nos ventes à des associations qui luttent en faveur du bien-être des chats. Donc actuellement, on a vendu plus de 36 000 repas et 91% de nos clients recommandent Jopy à leur entourage. Donc aujourd'hui, on recherche des partenaires financiers afin de faire grandir l'équipe et de renforcer l'expérience utilisateur. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur www.jopy.fr et Jopy, ça s'écrit J-O-P-Y.
Et bien voilà, c'était très bien François, hein. J'espère qu'ils vous ont bien, bien écouté, bien entendu. Hein. S'ils veulent participer financièrement, il faut aller sur jopy.fr. Alors, il y a une innovation à partir d'aujourd'hui dans La France Bouge, votre dossier, et bien nous l'avons passé au crible d'une experte. Notre experte, c'est Nathalie Carré, de la CCI France, des chambres de commerce et d'industrie. Elle a l'habitude d'accompagner les futurs entrepreneurs. Quelles sont les forces et les faiblesses de Poppy ? On écoute son jugement.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà pour démarrer, j'aurais des points positifs sur lesquels vous devez absolument capitaliser. D'abord, un contexte hyper favorable pour votre entreprise. On a 14 millions de chats dans les familles françaises et qui les considèrent comme un membre de la famille. Donc vous êtes à plein dans la tendance du bien-être. Deuxièmement, vous avez utilisé votre chat pour parler de votre produit. Donc c'est le storytelling, pareil. C'est excellent, ça fonctionne très très bien avec tout le monde. Enfin, vous avez eu 500 contributeurs Ulule, vous avez vendu 36 000 repas en 7 mois. Ça prouve que ça répond à un besoin et ça, ça va rassurer les financeurs. Donc vraiment des points positifs pour cette entreprise. Et pour terminer, des conseils à vous donner. 1. Entourez-vous d'ambassadeurs, créez des communautés de chats heureux. Vous pouvez vous inspirer des campagnes de pub Merci en faisant des pubs chats maîtres. Et c'est eux qui vous feront la pub de vos croquettes. 2. Prouvez. Montrez les coulisses de la fabrication des croquettes. Valorisez les producteurs qui travaillent avec vous. Expliquez pourquoi la composition de vos croquettes est idéale et meilleure que les grandes marques connues. Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. 3. Capitalisez sur le chat. Le chat, c'est la star des réseaux sociaux, c'est le meilleur influenceur. Donc, identifiez le canal qui vous apporte le plus de clients et mettez en place une vraie stratégie de communication sur les réseaux sociaux avec votre chat. Enfin, 2 questions. Est-ce que vous envisagez une distribution en boutique ? Et pour quel développement cherchez-vous des partenaires financiers ? Je vous souhaite bon courage dans votre aventure.
Et bah, c'est très très riche hein, ce qu'apporte Nathalie Carré comme explication. Vous en retenez quoi?
Déjà, un grand merci pour ces conseils super intéressants. Je reviendrai sur les 36 000 repas. Donc, ils ont été vendus en 4 mois et non pas en 7 mois, dans le sens où la campagne de financement participatif, qui a été un large succès, a eu lieu en début d'année. Et le coronavirus oblige, la crise du Covid, on s'est véritablement lancé en avril, à la sortie de la crise. Oui, effectivement, on met en avant nos fournisseurs, nos producteurs. Jopi, c'est 100% français. Donc, la boîte que vous voyez, le sac biodégradable en papier craft, c'est fait en France. Les croquettes sont faites en France, dans l'ouest de la France, avec de la viande de poulet élevée en France. Et pour répondre aux deux questions, la première... Alors,
est-ce que vous allez distribuer
Jopi,
en magasin?
Jopi, on est pure player. Donc,
vous êtes pure player, c'est votre choix.
À l'aise, on est vraiment à l'aise sur la distribution sur Internet, donc en jouant des leviers des réseaux sociaux. Mais effectivement, on est en train de réfléchir à élargir la distribution tout en gardant des valeurs cardinales qui sont la proximité avec nos clients. Le conseil pour démontrer qu'effectivement
donc,
on est bien meilleur
quoi,
que
les réseaux de jardinerie genre botanique ou
et
genre
bah,
de
choses. Pas forcément parce que dans les réseaux de jardinerie, je sais pas si vous y alliez, mais il y a pas forcément le conseil poussé qu'on recherche. Nous, on pense à des solutions encore un peu plus innovantes. Et puis la deuxième
Les partenariats.
Sur les partenariats, donc on recherche des partenariats financiers, style Business Angels par exemple. Tout simplement pour faire grandir la gamme et puis aller sur un menu de plus en plus personnalisé qui répond parfaitement aux besoins des chats.
Stéphane Pallez, vous mettez votre casquette là d'entrepreneuse. Qu'est-ce que vous auriez de plus comme conseil à dire?
Moi, je trouve que c'est une très belle idée et une belle histoire. Je pense qu'effectivement, il y a énormément d'opportunités à exploiter sur les réseaux sociaux. Ça a été dit par
Nathalie Carré.
La personne qu'on a entendue. Le chat, effectivement, c'est la star des réseaux sociaux. Et donc, il y a certainement
une opportunité à
raconter une histoire avec Jopi, donc Georges Jopi, et expliquer comment il préfère donc le poulet, ou peut-être qu'un jour il mangera vegan parce que en fait lui aussi faire le bien de la planète.
Vous avez un chat
et tout ça. Non, j'ai pas de chat, mais j'ai envie d'en avoir un, là, c'est clair.
vous avez convaincu. Merci à vous, François Rousse, le fondateur de Jopi.
Si vous aussi, vous avez un projet, une envie d'être challengé chaque jour par notre patron ou notre patronne du jour, et bien c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos futurs candidats.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Emmanuel Duteil, c'est déjà la dernière partie.
Ça passe toujours trop vite avec vous.
C'est ça. La France bouge, dernière partie de votre émission avec Demain au travail. Nous sommes toujours avec notre patronne du jour, Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux.
Et on passe tout de suite un coup de fil à Guillaume Caboche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de PandaCraft. PandaCraft, ce sont des kits créatifs et éducatifs pour accompagner les enfants à la découverte du monde. On reçoit ces kits à la maison. 25 salariés, vous existez depuis 2013. Et là, depuis le 1er septembre, vous avez décidé de mettre au point un système quasi inédit, surtout dans une entreprise de votre taille. 2 mois de plus pour le congé maternité et pour le congé paternité. Ça donne 6 mois de congé maternité, 2 mois et demi de congé paternité. Pourquoi vous avez décidé de mettre ça en place ?
Exactement, merci beaucoup. On devrait peut-être vous engager chez PandaCraft parce que c'est le résumé est vraiment excellent. Pourquoi on a décidé ça? D'abord parce que c'est la mission de PandaCraft, comme vous l'avez dit. Nous, on est des créateurs d'expériences de découverte pour les enfants. Et pour nous, un des points les plus essentiels dans le développement des enfants, c'est justement le temps qu'ils vont passer avec leurs parents. Et donc, du coup, pour nous, on regarde un peu toutes nos décisions RH à l'aune, justement, de cette mission. Et donc, aujourd'hui, c'est essentiel pour nous de leur laisser plus de temps. Après, je dirais qu'il y a aussi une raison.
C'est né aussi d'une discussion avec vos salariés qui vous ont dit, parmi les choses que l'on aimerait avoir, c'est plus de temps au moment de la naissance des enfants, que l'on soit papa ou maman.
Non, je dirais plutôt que ça n'a pas été une expression immédiate de la part de nos employés. Ça a commencé, moi j'ai eu un fils il y a un an, et on est un peu dans l'âge où autour de nous les enfants fleurissent, et on se rend compte dans plein de boîtes différentes, des grosses, des petites, dans plein de secteurs, qu'aujourd'hui, bah, c'est un sujet quand même assez important parce que le congé maternité est assez court. C'est-à-dire qu'en gros...
C'est 10 semaines, hein, logiquement, si on n'a pas de,
voilà,
de moment
après,
en plus.
Donc, ça veut dire que vos enfants, 2 mois et demi, ils sont déjà partis dans un système de garde. Et alors le papa, on n'en parle même pas parce que c'est quasi inexistant, en fait, le congé paternité. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, on a mis en place ces 10 semaines supplémentaires rémunérées de manière à ce que bah, nos employés ils aient un vrai temps serein au démarrage. De
et rémunéré à 100%.
Ouais.
Mais comment ont-ils accueilli la nouvelle? Parce que c'est totalement inédit. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment vous leur avez annoncé? Et comment ont-ils accueilli cette nouvelle?
Alors, malheureusement, les circonstances d'aujourd'hui font que c'est pas un grand rassemblement dans les bureaux, puisqu'il y a une partie qui est en visio et une partie... En présentiel.
Surtout vous êtes très au fait de tout ça, puisque il faut le préciser, hein, vous, ça fait 7 ans que vous avez accepté le télétravail illimité. Hein, donc vous êtes déjà dans cette culture d'entreprise où tout ça est très ouvert.
Exactement. Donc nous, il y a déjà ça qui est en place. Bah, je pense qu'ils sont très heureux. Je pense qu'ils le seront d'autant plus quand
les enfants vont
l'expérimenteront.
Arriver.
Là, aujourd'hui,
bien sûr.
Nous, on a un cas aujourd'hui. On a une employée qui est en congé maternité. Et évidemment, elle mesure la chance incroyable que c'est d'avoir 20 semaines après. Ça change complètement.
Ça change tout.
Merci beaucoup à Guillaume Caboche, le cofondateur de PandaCraft. Juste en quelques mots, Stéphane Pallès, c'est un point sur lequel vous pourriez travailler, vous aussi, à la Française des Jeux?
Alors nous, c'est un point très important pour nous parce que, comme ça a été dit, c'est très important pour à la fois le bien-être des salariés et l'attractivité de l'entreprise pour les jeunes collaborateurs. Donc nous, on est plutôt avancé sur le congé parental en particulier, puisque sur le congé parental, on a deux formules qui vont bien au-delà des dispositions habituelles, dans lesquelles notamment on peut prendre 6 mois rémunérés à 50% ou 3 mois, 75% 2 mois, et le dernier à 50%.
Et c'est donc, très pris du coup
et c'est, les parents et, c'est, de... et c'est pris d'une manière assez significative. Moi, ce que me disent mes jeunes salariés, c'est que il reste en fait souvent quand même des barrières psychologiques, notamment pour les garçons.
Mais ça va venir.
Voilà. Hein. Donc il faut les encourager et leur dire que c'est bien, ils y ont droit aussi, qu'il faut qu'ils utilisent ces dispositifs. Et puis après, on peut essayer de faire mieux.
Eh bien, merci beaucoup Stéphane Pallès, la présidente de la Française des Jeux, d'avoir été notre invitée aujourd'hui dans La France Bouge pour parler de jeux d'argent. Et on a retenu qu'on est quasiment, allez, on va dire, pas très loin de la tendance de l'année dernière sur les jeux d'argent et que ça cartonne pour le loto patrimoine.
Allez, on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle France Bouge. Et on parlera de quoi demain, Emmanuel?
Je vous emmène en train à hydrogène lequel. Demain. Le patron d'Alstom sera notre invité au lendemain de son retour au CAC 40. On verra aussi comment ça s'est passé.
Allez, à demain. Et dans un instant, Christophe Ondelat.